Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce mardi 22 novembre avec l'équipe de C'est à vous réduite à 4 ce soir. Voilà, on joue en 2-2-2. Non, ça fait 3. Pierre n'est pas là, mais il sera de retour demain. Bonsoir.
Bonsoir, Elisabeth.
À tous les quatre. Émilie, votre choix de l'actu du jour.
La République pleure l'un des siens, c'est ce qu'a déclaré Gabriel Attal, ministre des Comptes Publics, à propos de l'assassinat de l'inspecteur des impôts dans le Pas-de-Calais, parce que tout porte à croire, selon le procureur, que c'est un acte prémédité.
On en parle avec notre invitée Fanny De Coster, secrétaire générale de la CGT Finances Publiques, qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir.
Je vous parle ce soir d'une erreur médicale. Un homme parti voir son ophtalmo pour un changement de lunettes et qui est ressorti aveugle.
Et il témoigne
ce soir dans la story.
Ce soir pour C'est à vous. Patrick, votre édito.
Je vais commenter quelques images de ce début de mondial au Qatar. Il y a un peu de bon et beaucoup de consternant.
Beaucoup de consternant. On va demander son avis à nos deux invités. D'abord, Raphaël Antoven, philosophe, éditorialiste et cofondateur de Franc-Tireur. Demain, à la une de Franc-Tireur, Qatar, coupe, immonde. Je crois que le message est clair. À ses côtés, Jean-Philippe Leclerc, directeur adjoint de la rédaction de l'équipe, dont la une aujourd'hui est consacrée à l'équipe de France, mais avec un titre à double sens. Rêver d'un autre monde, vous nous direz quel sens caché il faut y voir. Bonsoir à tous les deux. Merci de votre présence ce soir. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Le gouvernement prépare une loi pour retirer l'autorité parentale en cas de violence sexuelle. Notre invité, lui, développe une doctrine nationale pour repérer et signaler l'inceste. C'est Édouard Durand qui co-préside la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
Il sera donc notre invité dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. À 20h, Lara Fabian nous dit tout. C'est le titre de son autobiographie qui mêle son histoire et ses expériences culinaires. Et puis on reçoit également l'écrivaine et documentariste Alice Diop qui signe un premier long métrage qui représentera la France aux Oscars en 2023. Saint-Omer, elle revient sur ce tragique fait divers, cet infanticide d'une mère qui avait abandonné sa petite fille de 15 mois sur la plage, elle laissant être emportée par la marée. Nos invités donc du dîner à 20h. Dîner préparé ce soir comme hier par notre chef Vincent Favre-Félix qui est aux côtés de Bertrand Chameroy. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Babette, bonsoir à tous. Ce soir, pas de blessés. Tous les titulaires ou presque de l'équipe de France 5 sont sur le terrain. Vous avez donc fait le bon choix et restez avec nous puisque je vous réserve un ABC aussi exceptionnel que le plat que nous prépare notre chef ce soir. Qui sera ?
Alors bonsoir, donc ce sera un risotto avec donc des champignons. De la mousse de mousse et de l'oxalis.
De la mousse de mousse ?
Ouais, le lichen en fait, qu'on ramasse au pied des arbres.
Ok, très bien. Super, bonne émission.
Bah oui, on va se faire mousser ce soir à la table de C'est à vous. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. La Coupe du monde de football a produit aujourd'hui ou hier une image, aujourd'hui, une image de réconciliation.
L'image
Patrick.
Du jour, c'était peu après 13h, l'émir du Qatar qui enroule à son cou le drapeau de l'Arabie Saoudite après la sensationnelle victoire des Faucons du désert, c'est le nom de l'équipe saoudienne, 2-1 sur l'Argentine. Terrible humiliation pour Léo Messi et son équipe qu'on rangeait parmi les favoris. 36 matchs sans défaite et consécration pour cette Arabie Saoudite entraînée par le français Hervé Renard. La fierté saoudienne rejaillissant sur le chef qatari, c'est aussi inattendu que le fiasco argentin. Les deux voisins sont restés brouillés, ennemis pendant 4 ans. Ils ont même failli se faire la guerre. Ça restera une belle image. Ce mondial aura au moins servi à ça.
C'est donc une bonne raison de se réjouir, Patrick.
Oui, réjouissons-nous et rappelons aussitôt que les exécutions capitales viennent de reprendre au royaume saoudien après un moratoire de quelques mois. Ces 10 derniers jours, 17 hommes ont été décapités au sabre en Arabie Saoudite pour des délits liés à la drogue. 144 depuis le début de l'année, dont un tiers de prisonniers politiques. Ça calme.
Le Qatar, lui, n'exécute pas ?
Non, il envoie les homosexuels en prison. Et avec la complicité de la FIFA, il interdit toute expression de solidarité depuis le début du mondial. Pas seulement pour les joueurs joueurs sur les terrains, on en a beaucoup parlé. Plusieurs spectateurs de la rencontre États-Unis-Pays de Galles hier soir se sont vus ordonnés au contrôle de sécurité, dotés des vêtements et chapeaux aux couleurs arc-en-ciel. Tout cela rend d'autant plus odieux le discours du patron de la FIFA, Gianni Infantino, samedi, aujourd'hui, je me sens qatari, arabe, africain, homosexuel, etc. On l'a entendu encore hier avant de fustiger l'hypocrisie des Occidentaux. Mais non, Infantino devrait savoir que s'il était qatari et homosexuel, il serait en tôle et sans doute passé à tabac.
Le patron de la FIFA est devenu l'un des plus fervents défenseurs de ce mondial au Qatar.
Il avait même promis que ce serait un festival de l'intégration sociale. Soyons justes, Gianni Infantino n'était pas aux commandes quand ce mondial a été attribué au Qatar en 2010. À la surprise générale, il était alors le bras droit de Michel Platini à l'UEFA. Mais cet apparatchik du foot suisse d'origine italienne s'est bien rattrapé depuis. D'abord, il vit en famille au Qatar depuis un an. Il a loué une maison à Doha. Il a scolariser ses filles.
Mais c'était pour préparer le mondial ?
Non, rien ne l'y obligeait. Le président de la FIFA a une fonction de représentation. Ce n'est pas lui qui inspecte les chantiers. C'est un déménagement lourd de symboles et qui pourrait présager un autre départ, celui du siège de l'organisation, de la Fédération internationale, de Zurich à Doha. Rumeur persistante, jamais démentie. Infantino, lors de son élection, déclarait qu'il y avait trop de Suisses à la FIFA.
Lui aussi a été acheté par le Qatar ?
Cette Coupe du Monde a été inondée d'argent, noyée sous les milliards. Ce petit émirat gazier, qui est aussi l'un des pays les plus riches du monde, aura dépensé plus de 200 milliards de dollars pour ce mondial au milieu du désert qui restera le plus cher de l'histoire. Et tout n'est pas allé dans le béton. La corruption était là dès l'origine, dès l'attribution de 2010. Encore un mot sur la, et un souvenir sur la promesse de départ avec le clip qui accompagnait la candidature du Qatar il y a 12 ans. Vous allez reconnaître la voix et le visage.
Quand je pense à tous ces jeunes du Moyen-Orient, leur manque un événement comme celui de la Coupe du Monde pour justement prendre notre ampleur. Je crois que c'est le moment pour le Moyen-Orient d'accueillir cette Coupe du Monde. Le foot appartient à tout le monde.
Vous voyez, un événement pour tous les jeunes du Moyen-Orient, c'était la promesse avec des images magnifiques par Zidane en 2010. Le résultat, on l'a vu dimanche dans les tribunes du premier match disputé par le Qatar. Admirez la ferveur et la diversité. Voilà, c'est l'autre image de ce début de mondial, sans doute le festival d'intégration promis par Infantino.
Oui, on cherche les femmes hein, sur cette photo déjà.
Il y en a quelques-unes en burqa.
Enfin, on cherche les spectateurs surtout. Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y a pas une majorité de femmes dans les stades de foot, il faut être honnête. De façon générale.
Oh, il y en avait beaucoup pour soutenir les Bleus en France. En fait, c'est des images qui datent de 98, mais c'est vrai que ça commence à dater. En résumé, la question que vous posez, c'est qu'est-ce qu'on fait encore là-bas ? C'est un peu la question qu'on pose. C'est le sens caché de votre une, Jean-Philippe Leclerc. Vous rêvez d'un autre monde pour le football, un football où on puisse porter un brassard en...
Oui, on rêve d'une autre Coupe du Monde, il ne faut pas se cacher, pour l'équipe de France. Et puis on rêve d'un autre monde pour le football. Le monde du foot, la FIFA a choisi le Qatar, mais il n'y a pas eu une élection auprès des joueurs, auprès des entraîneurs pour savoir dans quel pays voulait organiser la Coupe du Monde. Ça a été un choix de la FIFA. Nous, on l'a contesté dès le départ, on a trouvé que c'était une mauvaise idée. Et effectivement, tout ce qui se passe depuis dimanche nous conforte plutôt dans l'idée que ce n'était pas une super idée. Et il y avait eu un certain nombre d'engagements qui avaient été pris, symboliques, pas forcément sur ce brassard, parce que c'était resté assez flou, mais par exemple sur les questions de climat, de ne pas climatiser les stades, ou sur des questions plus légères telles que l'alcool dans les stades, et on voit déjà que ces engagements-là n'ont pas été tenus.
Est-ce que vous vous demandez encore ce qu'on fait là-bas, ou est-ce qu'il faut plus poser cette question-là maintenant que la compétition a démarré, alors que les Bleus vont faire leur entrée dans une heure ?
Maintenant, la compétition a lieu, les matchs ont lieu.
À contre-cœur, gâchée, quoi.
Non, je dirais pas ça. Après, ça reste quand même une grande fête. Les audiences sont plutôt bonnes. Donc, je trouve que l'atmosphère dans le stade, à part le match d'ouverture qui était catastrophique, mais sinon, l'atmosphère dans les stades est plutôt bonne. Et puis, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le foot peut être aussi un vecteur pour dénoncer des choses. Hier, il s'est passé un événement formidable. C'est-à-dire que les joueurs iraniens ont refusé de chanter leur hymne national. Ils ont fait preuve d'un courage incroyable. C'est autre chose que de porter un brassard arc-en-ciel, hein, franchement. Hein. Après, le capitaine a parlé pendant la conférence de presse en disant qu'il soutenait le mouvement. Enfin, ça, c'est grâce au foot. Et je pense que ça a eu une répercussion incroyable en Iran. Donc là, le foot, effectivement, on peut lui reprocher beaucoup de choses.
Mais là, il a mis sa place.
Il y a certaines fois où, grâce aux joueurs iraniens, franchement, courage, quoi.
Raphaël Antoven, on a cru que le Qatar pouvait changer, mais vous vous dites que c'est le Qatar qui a réussi à faire changer tout le monde, à plier tout le monde, à faire plier tout le monde, à commencer par le patron de la FIFA.
C'est pas un pays, c'est un fonds de pension, le Qatar. Je veux dire, bien sûr qu'ils ont fait plier tout le monde. On raconte, nous, dans Franc-Tireur, la façon dont le Qatar a conquis ce privilège absurde. C'était une langue de terre de la taille de l'île de France, dont la seule fortune est gazière, pétrolière, et qui finance à coup de chèques faramineux l'attribution d'une Coupe du Monde qui est un scandale absolu. Enfin, je veux dire, c'est qui se joue dans des stades construits sur du sang, dans un pays homophobe, antisémite, misogyne. C'est vraiment cette Coupe du Monde est un scandale. Mais le
président de la FIFA répond.
Justement, mais je voudrais.
C'est l'Europe très intéressant qui devrait s'excuser.
Il y a un paradoxe. Alors, il y a deux choses dans ce que dit Infantino qui sont vraiment très intéressantes. La première, c'est qu'il dit je me sens gay pour défendre la candidature du Qatar. C'est un pays, Patrick Cohen a eu raison de le rappeler, c'est un pays où l'homosexualité est passible de 7 ans de prison. Et si vous êtes musulman, c'est la peine de mort. Tout simplement, il dit « je me sens gay pour défendre le Qatar ». Mais ça, c'est l'effet d'un confusionnisme. C'est le résultat de la propagande qatari pendant des années, via Al Jazeera, via Agi+, en France, qui se fait passer pour une chaîne inclusive, alors qu'en réalité, elle promeut et elle est financée par un régime qui est celui qu'on connaît. Donc, l'effet de ça, c'est qu'on peut très clairement aujourd'hui dire « je me sens gay, donc je suis pour le Qatar », ce qui est fou. Et le deuxième truc dingue, c'est l'argument selon lequel les Européens sont hypocrites parce qu'eux-mêmes auraient réduit des gens en esclavage auparavant. Autrement dit, puisque les Européens ont réduit des gens en esclavage, les Qataris ont bien le droit de le faire à leur tour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'hypocrisie.
Parce qu'aucune critique n'est possible.
Non, mais l'hypocrisie n'est pas d'être un occidental hostile à l'esclavage. L'hypocrisie, c'est de dire que l'esclavage ne peut pas être critiqué par ceux dont les ancêtres ont commis ce crime. Et ce qu'il dit est ahurissant. Et quant au fait qu'il s'y installe, évidemment, ça permet de tout expliquer, je trouve.
Ce que fait Gianni Infantino, c'est tout sauf du football. Il fait de la diplomatie, il fait du business, il fait de la politique.
Après, je pense que Gianni Infantino, il est avant tout président de la FIFA. Et il a des élections. Alors, effectivement, il n'aura pas d'opposants. Les élections sont marche
prochaine. Il est candidat, printemps prochain.
Mais en fait, je pense qu'il n'a pas qu'un point de vue qatarien sur la question du brassard. Son électorat, il a depuis longtemps fait le deuil de sa popularité en Europe, et en particulier dans son pays, la Suisse. Et donc son électorat, il sait bien que c'est pas l'Europe. C'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est l'Amérique du Sud. Et l'affaire du brassard, ça a été une affaire, malheureusement, occidentale. Une affaire, en gros, Europe-Amérique du Nord. Basta. Donc, quand il prend cette décision-là, il flatte dans le sens du poil, si je puis dire.
Ses futurs électeurs.
Je rappelle juste une petite histoire, c'est que l'an dernier, il y a eu une journée de Ligue 1 avec des maillots dont les numéros étaient floqués aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a un joueur du Paris Saint-Germain, Idriss Agey, qui a préféré ne pas jouer un match de football de Ligue 1 plutôt que de porter ce maillot-là.
Il va s'installer définitivement au Qatar, Gianni Infantino ?
Il m'en a pas parlé la dernière fois. je ne partage pas ce genre de confidence avec lui.
Vous l'avez rappelé, deux des exemples de ces batailles symboliques gagnées par le Qatar. Les supporters gallois, par exemple, contraints de retirer leur chapeau couleur arc-en-ciel avant d'entrer dans le stade. Et la menace d'un carton jaune pour les capitaines des équipes qui auraient osé porter ce fameux brassard en soutien aux minorités sexuelles discriminées.
C'est ça qui est honteux. Parce qu'il y a deux... Pardon.
Allez-y.
Non, il y a deux choses. Il y a le Qatar qui empêche les symboles, ce qui est abject, qui demande de ne pas prier en hébreu dans la rue, ce qui est inimaginable, ou aux hommes de ne pas se tenir la main. Enfin bref, c'est le Moyen-Âge. Donc il y a ce premier point-là. Et puis il y a le fait de se coucher devant. C'est-à-dire que la lâcheté est plus dangereuse que le totalitarisme. Il y a le fait de se coucher, il y a le fait de se planquer. Pardon, mais l'équipe de France...
Est-ce qu'on peut juste écouter Hugo Lloris qui, encore hier... n'a pas contesté la décision de la FIFA d'interdire le port de ce brassard.
La FIFA organise la compétition, elle définit un cadre, des règles. Et nous, joueurs, ce qu'on nous demande, c'est de jouer au football et de représenter au mieux nos pays sportivement.
L'équipe de France en particulier, Hugo le misérable dans Franc-Tireur, sous la plume de Caroline Fourest.
C'est l'édito de Caroline Fourest, Hugo le misérable, oui. Il y a un problème avec cette équipe de France. L'équipe de France célèbre les valeurs d'inclusion, d'égalité, de diversité, de tolérance, de respect partout. On a tous l'image PSG Istanbul de Mbappé à genoux parce qu'un juge de ligne avait dit négrou en parlant d'un joueur de couleur noire. On était vraiment vibrant et antiraciste, universaliste, défendant l'égalité de tous, etc. Et puis quand on va au Qatar, ah ben non, là, excusez-moi, ces gens-là, ils sont différents. Il faut respecter ça, il faut tolérer ça, il faut accepter ça, il faut se coucher. Si vous voulez, donc il faut arrêter. Moi, je veux bien qu'on se couche devant le Qatar et qu'on ne mette pas le brassard arc-en-ciel. OK, on se couche. Mais arrêtons de dire qu'il y a des valeurs au foot. Arrêtons de dire que l'équipe de France porte des valeurs ou incarne des valeurs.
Vous faites une généralité au nom du Goloris de tous les joueurs de l'équipe de France. D'autres joueurs, je pense Antoine Griezmann a été en de Tétu et prône les valeurs de l'homosexualité dans Tétu en disant que...
Si j'ai donné le sentiment d'une généralité en parlant de tous les joueurs de l'équipe de France, je m'en excuse.
Capitaine,
j'en suis désolé parce que vraiment, ce n'est pas l'idée du tout. Vous avez raison.
D'autres joueurs ont publié un communiqué et on attend aussi d'autres signaux. Je pense notamment à Benjamin Pavard qui a dit qu'il comprenait les appels au boycott de cette compétition.
Alors, je retire cet anathème porté sur l'équipe de France de façon générale. Vous avez raison de me rappeler ça. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il est hautement contradictoire de défendre l'universel en France et d'arriver au Qatar en refusant de porter un brassard qui dit cela. Voilà.
Cette histoire de brassard, elle va coller à l'image des Bleus ou est-ce que Hugo le misérable va devenir Hugo le héros si tout d'un coup l'équipe de France fait un parcours incroyable pendant cette Coupe du
Monde ? C'est très clairement la décision de la fédération et c'est très clairement la décision de son président Noël Le Graët, qui est un vieil ami depuis toujours de Gianni Infantino.
C'est lui le responsable, en clair.
Oui,
il aurait pu donner le signal d'un autre comportement de l'équipe de France.
La France, c'est jamais. On a été vraiment dans la pointe du combat contre ce brassard même, parce qu'il y avait 7 sélections européennes concernées. Ils ont même pas sollicité la France, ou s'ils l'ont fait parce que effectivement, c'est la décision de Le Graët. Mais Le Graët, c'est aussi une question de génération. Le Graët, pour Noël Le Graët, de toute façon, il n'y a pas d'homophobie, il n'y a pas de racisme dans le football. Donc pourquoi porter un brassard? Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut pas généraliser.
Non, bien sûr.
Je pense qu'il y a des joueurs qui se sentent concernés. Antoine Griezmann a parlé plusieurs fois et il faut pas leur retirer ça.
Oui, on a vu les Anglais qui eux étaient, enfin le patron de la fédération britannique, il était prêt anglaise à porter le brassard quitte à porter une amende. Bon, à défaut de le faire, ils ont mis un genou en terre hier pour leur match. Enfin, oui, c'est ça.
Un genou à terre.
Oui, pardon pour le match. Est-ce qu'on peut attendre une manifestation de ce genre-là, des Bleus là au début de leur match?
Moi, je serais très surpris. Ce que font les Anglais le font y compris en championnat depuis quelques mois maintenant. Ce qui les a fait plier, en fait, c'est surtout les sanctions sportives éventuelles.
Un carton jaune, oui, ça c'est.
Les fédérations incriminées, les 7 étaient prêtes à payer les amendes. Et le fait de pouvoir prendre un carton jaune, bon, est-ce que c'est très glorieux? Pas forcément. Moi, je pense que ça aurait eu quand même pas mal de... Si un arbitre avait mis 7 fois un carton jaune à des grands joueurs, hein, puisque c'est les capitaines, hein, ça aurait eu quand même une certaine gueule, quoi. Mais après, oui, c'est compliqué pour les sportifs. Il y a eu par le passé, oui, tout le monde n'est pas Smith et Carlos au jeu de 68. Faut avoir quand même un grand courage, comme les joueurs iraniens hier.
Raphaël et puis Mohamed.
Non, mais Smith et Carlos au jeu de 68, c'est bien la preuve qu'il faut politiser le sport. Mais ça,
contrairement à ce que dit Emmanuel Macron.
Bien sûr. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est de ne pas politiser le sport? Jesse Owens remporte 4 médailles d'or au JO de 36 face à Hitler. Et ce n'est pas de la politique, ça. Quand Smith et Carlos lèvent le poing en 68 à Mexico, ce n'est pas de la politique. Enfin, je veux dire, évidemment, par définition, on politise le sport. Et puis, on ne peut pas dire à la fois, on ne va pas politiser le sport et le sport est porteur de valeur. Si le sport est porteur de valeur, le sport est politique. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Et l'autre point qui est fou dans cette histoire, c'est l'argument de l'ouverture au monde. Vous allez voir, ils vont s'ouvrir. C'est un brassage des cultures, etc. etc.
Oui, la culture européenne occidentale démocratique va infuser.
C'est un vieux discours qui remonte, pardon de faire le malin, à Montesquieu. C'est-à-dire l'idée que le commerce allait produire la paix. Or, cet argument-là, on a vérifié avec la Chine que ça ne marchait pas. Il n'y a pas de démocratie sans économie de marché, mais il existe des économies de marché sans démocratie.
Patrick
Hamon. Ce qui est brassé, en revanche, c'est l'information. Jamais on a autant parlé de la situation des droits humains au Qatar. Jamais on a souligné les discriminations et la situation de ce pays. C'est un soft power qui se retourne contre celui qui l'a activé malgré les milliards
d'euros. Vous inquiétez, Jean-Philippe.
C'est la seule vertu collatérale du truc.
Elle est importante.
Il y a différents enjeux aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'enjeu occidental, et celui-là, il est déjà complètement raté, mais vous l'avez précisé d'entrée, il y a aussi l'enjeu local. Et c'est plus important pour eux de se réconcilier avec l'Arabie Saoudite que tout ça, c'est de l'or pour eux. C'est de l'or. Beaucoup plus que d'avoir l'assentiment des Européens. Je pense qu'ils sont un peu dans la posture d'Infantino. Je pense que là, les Qataris, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que leur soft power, qui ne s'exprime pas que par le sport.
Là, l'Europe n'est pas le centre du monde dans cette Coupe du Monde. C'est ça qu'on comprend.
Qui s'exprime aussi par la culture, qui s'exprime aussi par l'économie, en rachetant des hôtels, etc. Ouais. Là, pour le sport, ça s'est transformé en bashing.
Ils n'ont pas dépensé 220 milliards juste pour se réconcilier avec le voisin saoudien.
Je pense qu'ils ont mal mesuré effectivement la portée de ce soft power qui pouvait se retourner contre eux. Mais là, je pense que la réconciliation avec le voisin, qui est un voisin immense, c'est un tout petit pays, puis vous avez un immense voisin qui a failli vous déclarer la guerre. Ces images-là, pour les Qataris, c'est déjà une grande partie de l'effet Coupe du Monde qui est...
Et c'est dire si c'est de la politique.
Non, juste un mot, pour avoir discuté avec certains joueurs de l'équipe de France ces dernières 48 heures, je sais qu'ils réfléchissent à un geste, ils réfléchissent à montrer quelque chose dans cette compétition, ils veulent aller contre les consignes données par Noël Le Graët, le président de la fédération, et rappeler aussi que...
Il y a un début de rébellion.
Voilà, il y a un début de rébellion, il y a une réflexion en tout cas, je ne dis pas qu'ils vont le faire, ils réfléchissent. Et l'autre élément que je veux ajouter, c'est que la FIFA s'est aussi couchée devant la Russie en 2018, où cette Coupe du Monde a été tenue dans des conditions ignobles pour les gens qui travaillent dans les stades, et qu'on avait interdiction d'interviewer les Russes, et qu'aucun message politique n'existait dans les stades qu'on a...
Oui, c'est une situation qu'on avait déjà connue, et moins dénoncée peut-être à l'époque, exactement.
Et puis, pardon, en 1978, l'Argentine était une dictature militaire quand la Coupe du Monde s'y est tenue. L'enjeu n'est pas de faire la morale au monde entier en disant le Qatar c'est mal et tout le reste c'est bien, etc. etc. C'est pas un monde de bisounours où il s'agit de séparer en bien et mal. Mais en revanche, on n'est pas obligé non plus, même si le monde n'est pas parfait, de se satisfaire d'une Coupe du Monde achetée à coup de subsides par un État croupion dont les stades sont construits sur du sang et qui retire les brassards arc-en-ciel.
Le foot qui est décidément politique, ça s'est encore démontré cet après-midi à l'Assemblée nationale. La députée Sandrine Rousseau a interpellé Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, de retour du Qatar d'ailleurs, où il représentait la France dimanche lors de la cérémonie d'ouverture.
La FIFA, quant à elle, a interdit explicitement le port du brassard One Love, ce qui annonce rien de bon quant au respect des droits des personnes. La LGBT-phobie est un délit en France. Ma question est donc simple. La garantie des droits des personnes LGBT fait-elle partie des missions confiées aux forces de l'ordre françaises ?
Il y a 225 personnels du ministère de l'Intérieur en ce moment à Doha et dans le Qatar. En aucun cas, les policiers et les gendarmes français ne font du maintien de l'ordre au Qatar. En aucun cas, ils sont en contact avec la police qatari pour appliquer les lois du Qatar. Ils sont là pour protéger nos concitoyens et pour nous aider à mieux organiser la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques.
Mais en fait, vous n'avez pas du tout répondu à la question. Est-ce qu'ils les protégeront en cas de LGBT-phobie dans la rue qatari ? C'est ça la question.
En effet, Gérald Darmanin n'a pas vraiment répondu à la question. Il a un peu noyé le sujet. Ça dit quelque chose du malaise de nos politiques aussi ?
Oui, enfin moi, ça me dit surtout que je suis d'accord avec Sandrine Rousseau, ce qui me fait grand plaisir.
C'est la première fois ?
Peut-être. ça fait longtemps, en tout cas. Mais là, je veux dire...
Non, mais nos politiques, est-ce qu'ils manquent de courage, surtout au regard de ce que peuvent faire les autres ?
Il y a deux registres ici. Il y a l'éthique de responsabilité, il y a l'éthique de conviction. Pour un politique, commercer avec le Qatar, discuter avec le Qatar, c'est inévitable. On ne peut pas échapper à ça, naturellement. Je veux dire, il ne s'agit pas, là encore, de dire on ne va pas se salir les mains. Bon, ça n'a pas de sens, si vous voulez. Tout autre est d'abonder dans le sens des choses qui nous sont imposées par le Qatar et de souscrire à un certain nombre de dispositions liberticides et infâmes. Il y a une mesure à trouver entre les deux, à mon avis, où l'honneur est sauf, je trouve.
Il y a une bombe médiatique qui est tombée aujourd'hui. Ça va faire plaisir à Anne-Elisabeth Lemoine. C'est cette information, Jean-Philippe. Cristiano Ronaldo qui va quitter Manchester United. C'est officiel depuis 18h43.
Oui, parce qu'il y a la suite qui arrive.
Voilà, puisque c'est le joueur préféré de Babette.
Jean-Philippe, du coup,
il peut venir au PSG, Cristiano Ronaldo, maintenant qu'il est libre.
Faut pas qu'il dise trop de mal du Qatar. Ouais,
il n'a jamais dit du mal du Qatar.
Non, je pense qu'il a un problème, Cristiano Ronaldo, c'est qu'il propose ses services et pour l'instant, ils sont plutôt refusés que chaleureusement acceptés. Je vois pas trop l'intérêt du PSG. Je suis désolé, mais je vois pas trop l'intérêt du PSG à prendre Cristiano Ronaldo. On a bien vu qu'il a eu une saison catastrophique avec Manchester United. Je crois qu'il a fait des offres de service au Real Madrid qu'on n'a pas voulu non plus. Il a 37 ans. En plus de ça, je pense que son espèce de coup médiatique avec son interview avant la Coupe du Monde, c'est au Sun et à Piers Morgan, ça a été plus
en se plaignant de la façon
plus catastrophique qu'autre chose. Donc là, il est sur le marché. Je pense qu'il va finir par solliciter peut-être mon club favori, là, Saint-Etienne. Mais
oui.
Je pense qu'il en est là. C'est un peu. Je lui souhaite de réussir vraiment sa Coupe du Monde.
Oui, il va peut-être partir aux États-Unis.
Sinon, ça risque d'être un peu triste.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Leclerc. Je vous libère parce que vous avez un match à voir. Je ne vois pas du tout de quoi il s'agit. Rêver d'un autre monde, ça c'était la une ce matin. Demain, ce sera laquelle?
Non mais
il y a un match en retard. Ben justement, vous espérez. Ma question que vous avez comprise, évidemment, c'est vous espérez quelle une demain.
Je rêve d'une autre victoire. Je rêve d'un autre monde, d'une autre victoire et
d'une autre étoile. C'est possible ou pas?
Une troisième étoile.
C'est possible.
Oui, bien sûr que c'est possible. Évidemment.
Il faut rêver. Ah oui, sur une entre 0 et 10, c'est possible à combien?
Je dirais à 7-8.
Ah oui?
Ah ouais?
Ah oui, je suis fier.
Ah, vous êtes très. Ah ouais? Ah ouais.
Je vais rentrer au journal, on va perdre contre l'Australie, je vais passer par un abouti.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Leclerc, d'être venu ce soir sur le plateau. C'est à vous. Bon match, Raphaël. Hop, privé de match, vous restez avec nous. Je rappelle
J'avais pas l'intention de le regarder, j'avoue.
Qatar, Coupe immonde, c'est à la une de Franc-Tireur demain en kiosque. Et puis vous nous signalez ce hors-série.
Oui, le hors-série de Franc-Tireur. C'est le premier hors-série. C'était une histoire des lanceurs d'alerte.
Qui va de Cassandre à
Greta Thunberg. C'est-à-dire de l'idée que les lanceurs d'alerte depuis Cassandre, c'est des gens qui voient l'avenir mais qu'on n'entend pas. Et au XXIe siècle, ils ont les moyens de se faire entendre, ce qui change la donne. On raconte tout ça.
D'hier à aujourd'hui, c'est ce hors-série qui est également disponible demain en kiosque.
Ah oui, absolument. Hier, aujourd'hui, demain.
Hier, aujourd'hui, demain. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe Leclerc. Dans le reste de... Qu'est-ce que j'ai dit?
Non, j'ai juste dit merci Jean-Philippe.
Vous avez d'accord, pardon. Dans le reste de l'actualité, hier, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a interrompu les débats au Sénat pour annoncer la mort d'un inspecteur des impôts tué dans l'exercice de ses fonctions.
Ce soir, la Direction générale des finances publiques est en deuil. Après un drame terrible, cet après-midi, un chef de brigade de vérification de la Direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais, de 43 ans, s'est déplacé accompagné d'une collègue vérificatrice dans le cadre d'un contrôle fiscal dans la commune de Bullecourt. Cet homme faisait simplement son travail, son métier, comme chaque jour. Aujourd'hui, il n'est pas revenu, il a été tué dans le cadre de ce contrôle fiscal.
Émotion qui s'est propagée cet après-midi à l'Assemblée nationale où une minute de silence a été respectée. Et émotion surtout dans le village où le drame s'est produit, Bullecourt, dans le Pas-de-Calais, moins de 250 habitants ici. Tout le monde se connaît et beaucoup connaissaient l'homme auteur des faits, un homme auto-entrepreneur de 46 ans, divorcé, père de deux enfants, qui avait acheté une ferme dans laquelle il organisait des vides-greniers, car c'était ça son travail, aider à vider des maisons, évacuer les vieux meubles. Il s'impliquait aussi beaucoup dans la vie, dans la municipalité. Bref, c'est un villageois de Bullecourt lambda, plutôt apprécié.
C'est une personne qui est arrivée il y a à peu près 7 ans dans la commune. Il avait une entreprise. Donc il n'était pas brocanteur de profession. Il débarrassait les maisons.
Il est arrivé depuis quelques années à Bullecourt. C'était quelqu'un d'assez discret. Il n'y avait pas eu trop d'histoire. On le voyait souvent venir, descendre avec son camion, ça, il avait l'air de travailler.
C'était une personne du village, qui faisait partie du village, qui participait aussi aux manifestations du village.
Il était toujours là pour aider, on faisait des structures gonflables, il allait les chercher, il prêtait son camion. C'était quelqu'un vraiment, c'était un altruiste.
Hier à 14h, cet homme qui avait des difficultés financières et qui avait déjà été contrôlé plusieurs fois a rendez-vous avec deux agents du fisc. Ludovic, 43 ans, inspecteur principal des finances publiques, chef de brigade de vérification d'Arras, décrit par ses collègues comme un agent expérimenté, disponible pour accompagner ses collègues. Il est accompagné d'Hélène, une inspectrice des finances de 38 ans. Ils doivent effectuer une dernière vérification de la comptabilité de l'entreprise de cet auto-entrepreneur à son domicile. Et au-delà de ça, ils vont être séquestrés, ligotés. Ludovic sera, lui, tué par plusieurs coups de couteau sous les yeux de sa collègue, épargné mais traumatisé. L'entrepreneur s'est ensuite donné la mort avec une arme à feu, un acte prémédité selon le procureur de la République d'Arras.
L'enquête est ouverte sur chef d'assassinat dans la mesure où les premiers éléments semblent se diriger vers un acte prémédité. Les inspecteurs des finances publiques ont pris rendez-vous avec le mis en cause et donc le mis en cause savait qu'il allait recevoir ses inspecteurs. Les éléments de préméditation, c'est probablement l'élément le plus important, la présence de colliers de serrage, c'est-à-dire des liens qui étaient fixés sur les sièges où ont été à la fois assis la victime qui est décédée et la seconde victime.
Bonsoir Fanny De Coster.
Bonsoir.
Secrétaire générale de la CGT Finances Publiques. Ce sont tous les agents des impôts qui sont sous le choc aujourd'hui après la mort de Ludovic Montuel, mais en particulier ses collègues d'Arras avec lesquels vous avez pu vous entretenir.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je souhaiterais commencer mes propos par apporter tout notre soutien à tous nos collègues, puisque aux proches des victimes aussi, et à tous les collègues de la DGFiP dans leur ensemble, puisqu'effectivement, c'est un choc et tous les agents aujourd'hui sont sous la stupéfaction. Et en particulier, effectivement, les collègues d'Arras et de sa brigade.
Qui était Ludovic Montuel ?
C'était un inspecteur principal des finances publiques, un collègue, comme on en a tant, qui faisait son travail au quotidien et qui rendait des missions de service public, comme le font tous nos collègues chaque jour sur le territoire.
Il y a le meurtre prémédité de cet inspecteur des finances, mais aussi la séquestration et les violences subies par sa collègue. Un événement tragique qui reste exceptionnel, je crois que vous tenez à le préciser, mais oui, qui interroge sur le niveau de violence qui se généralise
tout
aujourd'hui
fait
en France, et particulièrement dans les services publics.
Oui, particulièrement les agents des services publics sont exposés, alors comme tout un tas de professions, mais c'est vrai que tous les agents qui rendent le service public sont particulièrement exposés. À travers nous, souvent, c'est l'État qui est parfois visé, les lois qui sont votées et pour lesquelles nous, on a le devoir de les appliquer sans participer à leur élaboration, ce n'est pas notre rôle. Et on est souvent en première ligne, justement, de toutes ces contestations dans
un contexte. C'est des colères, c'est des insultes, c'est des menaces physiques ?
Oui, ça va de violences verbales, de l'exaspération, à des cas, heureusement, très rares, mais aussi dramatiques qu'on a pu voir hier.
Les fonctionnaires des impôts font face à une colère de plus en plus grande de la part des contribuables, notamment au point qu'il y a des vigiles maintenant dans les centres des impôts.
Tout à fait, ça fait quelques années où dans les accueils des finances publiques sont embauchés des agents de sécurité pour gérer justement parfois les colères, les files d'attente qui grandissent dans les centres des finances publiques. Et c'est vrai que c'est devenu une réalité sur laquelle on ne peut pas nier cette réalité. On a besoin parfois de l'assistance d'agents de sécurité.
Vous êtes formé pour faire face à cette contestation, à cette colère ?
On est formé comme en tant qu'agent des finances publiques. On a des formations initiales, de la formation continue, notamment sur tout ce qui est technique fiscale, puisque ça prend pas, enfin c'est pas un don, c'est des matières assez techniques. Mais par contre, sur la gestion de la violence, etc., s'il y en a, elles sont très insuffisantes. Et pour beaucoup, elles n'existent même pas, en fait.
Ces tensions, c'est quoi ? C'est le résultat de la mauvaise image des impôts et de la fiscalité en France ?
Oui, c'est effectivement, on fait face depuis plusieurs années, que ce soit vis-à-vis des discours politiques, mais aussi de certains discours médiatiques, à du fonctionnaire bashing. Et aussi à de l'impôt bashing, en fait. C'est-à-dire que les fonctionnaires sont critiqués depuis des années. On représente souvent plus un coût pour la société, alors qu'on est plutôt un investissement pour le bien commun. Et sur l'impôt, ben on le sait, ça fait des années. On se rappelle toutes et tous, je pense, du dernier mouvement des Gilets jaunes qui a beaucoup interrogé sur le fait que l'impôt est très contesté en France, par les politiques aussi, d'ailleurs, puisqu'on nous dit tout le temps qu'il faut absolument baisser les impôts. Ce qu'on dit plus rarement, c'est que paradoxalement, la population demande de plus en plus de services publics et qu'il n'y a pas de secret. Les services publics sont financés par l'impôt. Alors, moi, ce que je comprends chez nos concitoyens, c'est que finalement, on n'a pas l'impression de payer moins d'impôts. Pour autant, on a tous et toutes l'impression que beaucoup de services publics disparaissent ou en tout cas qu'il y en a de moins en moins sur les territoires. Donc j'aurais plutôt envie de dire à nos concitoyens que plutôt que de contester l'impôt, il faudrait peut-être regarder plutôt à quoi il sert aujourd'hui.
Raphaël, vous vouliez faire une
commentaire ? Oui, non, pas sur la tragédie elle-même. Il n'y a rien à dire, à part s'incliner et pleurer, parce que bon, voilà, l'histoire de la haine du contrôleur fiscal en France et en démocratie, elle ne date pas d'hier.
Non, ça,
elle ne date pas d'hier. Pendant très longtemps, le contrôleur fiscal, c'était l'individu désincarné, l'être de chiffres, qui venait prendre le fruit du travail. Et d'ailleurs, la distinction maurassienne du pays légal et du pays réel vient aussi de cela, c'est-à-dire du sentiment qu'il y a d'un côté les braves gens qui travaillent et de l'autre côté les salauds des impôts qui viennent leur prendre le fruit de leur travail. C'est un vieux lieu commun de la démocratie où le poujadisme a trouvé sa source, où le populisme trouve sa source, c'est-à-dire l'idée que l'État n'est pas au service des gens ou que la loi ne garantit pas la liberté, mais que l'État est en vérité un outil d'oppression et que la loi est en réalité uniquement une contrainte.
Pour revenir sur cette affaire, ce chef d'entreprise avait été, semble-t-il, plusieurs fois contrôlé. C'était le dernier examen de sa comptabilité. Est-ce que des précautions particulières sont prises quand on doit visiter une personne, quand on sait que cet entretien risque d'être tendu? En l'occurrence, là, le fait qu'il soit deux à ce rendez-vous, est-ce que c'était une des précautions?
Alors, de manière générale, parce que vous comprendrez que je ne peux pas intervenir sur ce dossier en particulier, puisqu'on a le secret professionnel fiscal, mais il y a aussi, a priori, une enquête en cours. Mais de manière générale, c'est vrai que l'inspecteur des finances publiques qui fait un contrôle fiscal externe, dans la grande majorité des cas, s'y rend seul. C'est une procédure individuelle. Il y a par contre, quand il y a un dossier particulier, effectivement, on a la possibilité de s'y rendre en binôme. Ceci étant, les cas particuliers peuvent être de différents ordres. Ils peuvent être des problèmes particuliers informatiques, des problèmes particuliers techniques où on a besoin d'être accompagné d'un expert dans tel ou tel domaine, ou effectivement un dossier très sensible qu'on sait d'avance, qui peut poser des problèmes de tension, on va dire très clairement.
Ça va changer la donne? Est-ce qu'il faut être accompagné par un agent de sécurité maintenant? Est-ce qu'il faut l'envisager?
En tout cas, jusqu'à présent, ça ne s'est absolument pas posé sous ces termes-là. Nous, ce qu'on demande, notamment à la CGT Finances Publiques, en portant évidemment la parole des agents, c'est surtout plus de moyens en termes d'agents des finances publiques, déjà dans un premier temps, pour nous permettre de rendre un service public de qualité dont sont en droit d'attendre les citoyens. Parce que comme on ne le fait pas de qualité, ça exacerbe les colères, etc. Et on pense qu'avoir un agent de sécurité ou même des forces de l'ordre ne participerait pas à l'apaisement du dialogue qui doit avoir lieu entre l'usager et le vérificateur. Parce que juste pour rebondir, et je m'arrête après, sur ce que vous disiez, c'est que contrairement à l'image justement de ce contrôleur des finances publiques qui viendrait avec c'est comme ça, c'est tout, vous payez, vous devez cet impôt, vous le payez.
Nous sommes les frères qui rappent tout. Hein,
comme la chanson, comme la effectivement. Chanson, ouais. Il faut voir que dans la réalité, ça a vraiment bien changé. Aujourd'hui, les vérificateurs, il y a un dialogue qui est instauré, comme ça peut être le cas avec des citoyens particuliers d'ailleurs, qui ont des problèmes de versement de l'impôt. Aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de mettre les entreprises dans la difficulté. C'est d'ailleurs pas les consignes très claires qu'on a, surtout suite à la crise Covid, etc. Donc le dialogue est installé.
Patrick. Est-ce que le prélèvement à la source, qui ne vaut pas pour ces métiers-là ou pour ce métier-là où de l'argent circule, mais est-ce que le prélèvement à la source a permis de réduire votre charge et les risques aussi de contact ou de conflit avec les contribuables?
Pas vraiment. Enfin, on va dire que le prélèvement à la source, ça a enlevé des charges en termes de recouvrement. Puisqu'en fait, c'est un tiers aujourd'hui qui recouvre pour le service d'impôt, un peu comme la TVA. C'est-à-dire que c'est les entreprises qui prélèvent l'impôt et qui le reversent. Donc les interlocuteurs pour le recouvrement sont réduits, de fait. Par contre, l'assiette de l'impôt, le calcul de l'impôt, relève toujours de nos services et n'a pas enlevé beaucoup de questions techniques qui peuvent encore aujourd'hui se poser.
Merci beaucoup Fanny Lecoster d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la CGT Finances Publiques. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, vous nous faites le récit de cette histoire incroyable, invraisemblable, l'histoire d'un patient qui a perdu la vue en allant chez son ophtalmo.
Oui, le 5 octobre 2020, Adrien se rend chez son ophtalmologue pour une visite de routine. Rien de plus banal, il a besoin de vérifier la correction de ses lunettes de repos et d'une nouvelle ordonnance, mais c'est aveugle qu'il sortira du rendez-vous.
Le médecin, il ne m'a même pas appelé par mon nom, il m'a dit « à nous » et il m'a fait rentrer dans le cabinet. Et de suite, il m'a dit « pose ton front, regarde l'objectif, il m'a mis devant une machine et il a commencé à appuyer sur cette machine. J'ai dit, mais pourquoi vous me faites un laser? Ça n'a rien à voir avec des lunettes, quoi. Il s'en foutait, quoi, il continuait. Et 10 minutes après, j'étais aveugle. J'ai vraiment compris qu'il y avait eu un problème quand j'étais en salle d'attente. Je lui disais, docteur, je ne vois toujours pas. Et il m'ignorait, quoi.
Pour les experts médico-judiciaires, il n'y a pas de doute, Adrien est victime d'une erreur médicale aussi indéniable qu'incroyable. L'ophtalmologue s'est tout simplement trompé de patient avec des conséquences gravissimes. Adrien a dû être amputé d'une partie de l'œil, 2 opérations et une greffe d'une partie du globe oculaire lui ont permis de retrouver partiellement l'usage de ses yeux. Mais 2 ans après cette terrible consultation, les séquelles restent nombreuses.
Quand il y a du soleil, je suis obligé de mettre des lunettes tout le temps. Les lumières dans les centres commerciaux aussi me font très mal. Je ne peux pas aller au cinéma parce que les lumières me font mal. Et tous les jours, des douleurs atroces qui sont créées par la sécheresse des yeux. Et maintenant, je me retrouve sous un traitement qui est assez lourd. Sans ça, je dois rester tout le temps dans le noir. C'est ma vie professionnelle qui est complètement chamboulée, ma vie personnelle. Depuis, je ne vis plus, j'existe.
L'ophtalmologue marseillais a reconnu son erreur dans un message envoyé à un de nos confrères de BFM Marseille avant d'ajouter de manière laconique « Quand vous faites une connerie, vous faites une connerie ». Cet ophtalmo était le médecin de la maman d'Adrien depuis 30 ans et pourtant, malgré cette longue relation de confiance, il n'a jamais présenté la moindre excuse à la famille, ce qui sidère l'avocat d'Adrien.
Depuis le 5 octobre 2020, où l'acte s'est réalisé, il a laissé son patient dans la salle d'attente et lui a dit « à bientôt » et ça s'est terminé comme ça. Depuis, plus aucune nouvelle, aucune prise de contact, rien du tout, savoir comment il allait. Aux expertises, il a été convoqué, il a été appelé, il n'a jamais répondu. Il a dit « je ne peux pas venir, mais on peut déplacer ». En d'autres termes, on n'a eu jamais sa parole, on n'a jamais rien su.
Adrien a porté plainte, un procès devrait se tenir en 2023. D'ici là, l'ophtalmologue continue d'exercer à Marseille.
Il n'y a rien dans nos différents codes qui nous permettent de bloquer ou de stopper l'intervention d'un tel médecin. Il faut passer par l'ordre judiciaire, ce qui a été fait par une plainte au procureur, également l'ordre des médecins pour stopper ce praticien. Malheureusement, aujourd'hui, tout est entre leurs mains. On ne peut pas faire plus et c'est un défaut d'ailleurs. Mais je pense sincèrement qu'une action prochaine et réelle du procureur notamment va permettre de stopper et de le suspendre de son activité parce qu'il y a véritablement une urgence critique aujourd'hui pour que d'autres patients ne subissent pas la même chose.
Les deux plaintes d'Adrien envers ce médecin, c'est non-assistance à personne en danger et atteinte à l'intégrité physique d'un patient.
Ça vous inspire un commentaire, Raphaël ?
C'est Kafka par Kafka. Mmh. C'est kafkaïen qu'on se soit trompé de patient et c'est kafkaïen ensuite que le type en question ne soit pas radié. Mmh. Enfin, c'est Kafka par Kafka.
Ou tout au moins suspendu en attendant
le procès.
Le jugement. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir Babette,
bonsoir à tous.
Ah pardon, votre petit tabouret.
On est une chaise.
Le site d'investigation Mediapart estime être victime de censure.
De censure préalable à la diffusion d'une enquête. C'est le tribunal judiciaire de Paris qui leur interdit une publication. On va rentrer dans le détail. Le contexte, d'abord l'objet de leur enquête. Gaël Perdriau, on en a parlé ici, le maire de Saint-Étienne, soupçonné de chantage à la sextape sur un de ses adjoints. Ce dernier avait été piégé, filmé dans une chambre en janvier 2015 avec un escort boy. Mais il avait enregistré des conversations à trois avec l'édile et son directeur de cabinet. Mediapart avait d'ailleurs diffusé ces extraits où on les entend parler comme de vrais gangsters.
On m'a fait parvenir un film très édifiant qui dure pas
Oui, c'est ça. Et ce film, oui, ben justement, et ben utilisez-le, ce film.
Ah, et je vous l'ai déjà dit.
Alors là,
si le fait que j'aille en tôle vous fait tomber parce que vous passez pour une vieille
pédale sur le retour... Mais j'en ai pas du tout envie,
bien,
vous allez en tôle.
Je n'en
j'ai
ai
dit, respectez-moi.
Problème.
Ne vous trompez pas. C'est simplement parce que la vie m'a permis de ne pas mal tourner que je n'ai pas mal tourné. Mais je fonctionne exactement comme peut fonctionner un criminel. De la même manière. Je n'ai aucune foi ni voix.
Une fois que c'est sur les réseaux, c'est plus du chantage.
Oui, bien sûr.
C'est l'exécution.
Alors aujourd'hui, Mediapart affirme détenir de nouvelles informations au sujet de Gaël Perdriau avec un nouvel enregistrement, sauf que l'avocat du maire de Saint-Étienne a réussi à faire interdire la publication sous astreinte de 10 000 euros par extrait publié. Pour Gaël Perdriau, ces enregistrements seraient une atteinte à la vie privée. Je dois juste préciser à un moment que personne autour de cette table n'a pu entendre ces enregistrements, bien sûr. Chez Mediapart, on pousse des cris d'orfraie, on dénonce une censure, on a une attaque contre la liberté de la presse. Anaïs Recouli et Camille Schmitt ont d'abord demandé aux journalistes en charge de l'enquête de nous parler de ce que la justice n'a pas laissé publier.
Ce que nous apprêtions à révéler, c'était un deuxième épisode de cette affaire, à savoir les pratiques de Gaël Perdriau en personne, maire Les Républicains de Saint-Étienne, contre cette fois-ci une autre personnalité politique importante, nationale, en l'occurrence le président de région, Laurent Wauquiez. On a été extrêmement surpris de l'arrivée d'un huissier à la rédaction vendredi après-midi. Il faut savoir que donc moi j'avais eu des échanges avec le service de presse de Gaël Perdriau pour l'envoi des questions. Ils m'ont même demandé un délai complémentaire pour réunir les éléments de réponse, délai que nous avons légitimement accordé. Ce qu'il a tenté de faire, selon nous, à travers la saisine judiciaire qu'il a opérée en urgence vendredi, parce qu'il avait reçu nos questions, donc il savait exactement sur quoi allaient porter nos nouvelles révélations, c'est de nous empêcher de publier.
Alors ça, c'est pour le fond du dossier. Aujourd'hui, Mediapart tenait une conférence de presse pour dénoncer la manœuvre d'une façon plus générale, l'interdiction d'un article avant même qu'il ne soit publié. Plusieurs journalistes politiques, juristes, associatifs se sont manifestés aujourd'hui pour défendre Mediapart et la liberté d'informer.
Lorsqu'un juge doit venir dire si des propos n'auraient pas dû être publiés, il le dit toujours après, mais jamais préalablement.
En soi, c'est un acte judiciaire aberrant que cette censure préalable sur ce qui est clairement une information d'intérêt public.
On doit pouvoir publier, puis ensuite, éventuellement, répondre de ses actes.
On n'est pas là dans une justification sur la sécurité nationale, sur des informations qui seraient purement de nature privée, où il y aurait une forme de légitimité à empêcher qu'elles soient publiées.
On doit pouvoir se questionner sur la raison pour laquelle un magistrat, seul, sans contradictoire, a pu rendre une décision aussi attentatoire.
C'est une alerte et il en restera quelque chose, parce qu'on voit qu'il y a une espèce d'accumulation à laquelle il faut prêter attention.
Et du côté des politiques qui défendent Mediapart, Babette, la sénatrice Nathalie Goulet qui s'est immédiatement saisie de l'affaire et ce matin elle a déposé une proposition de loi pour empêcher ce genre de procédure en matière de presse.
Une procédure non contradictoire qui vient intervenir en matière de presse viole les principes fondamentaux de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Alors la liberté de la presse est une liberté constitutionnelle et on ne peut pas y porter atteinte. Ce qui se passe simplement c'est que cette procédure, cette requête est totalement inédite dans cette matière.
Si votre proposition de loi passe, qu'est-ce que ça va changer ?
On ne pourra pas interdire d'articles ni de livres, etc., sans contradicteur, sans que la procédure soit contradictoire, si vous voulez. Moi, mon sujet, il est indépendant du fond de l'article et indépendant du média support. C'est une question de principe.
Mediapart espère aujourd'hui obtenir la rétractation de l'ordonnance qui interdit la publication. Une audience au tribunal est prévue vendredi après-midi.
Oui, si j'ai bonne mémoire, on en parlait pendant le reportage, au moment de la publication des enregistrements du majordome, enfin de Liliane Bettencourt, la justice avait donné raison à Mediapart à ce moment-là. Donc c'est probablement la même histoire qui se reproduit. Je vois peu de différence entre les deux en réalité. C'est-à-dire que le motif à l'époque, mais c'est de mémoire, hein, c'était l'intérêt général ou l'intérêt public, je ne sais plus.
Bien sûr.
Peut s'appliquer le cas échéant.
Et dans l'affaire Bettencourt, c'était dans un cercle beaucoup plus privé que sans doute ce que s'apprête à publier.
Je suis d'autant plus tranquille pour le dire d'ailleurs qu'à l'époque, moi j'étais contre la publication des enregistrements d'Eliane Bettencourt et je dois dire que la justice leur a donné raison. Voilà.
Le gouvernement veut renforcer la loi pour mieux protéger les mineurs.
Oui, je vous ai parlé du Conseil des ministres des enfants. Hier, s'en suivait un comité interministériel dédié à la protection de l'enfance, nouvelle grande cause du quinquennat. Et parmi les mesures avancées, ce n'est pas la seule, mais parmi elles, le retrait de l'autorité parentale pour les personnes coupables d'inceste. C'est une recommandation de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste. 160 000 enfants, nous disait la Civise, seraient victimes de violences sexuelles chaque année. Un drame qui touche une personne sur 10 en France. Et demain soir, France 2 propose un documentaire intitulé « Entendre l'indicible », une plongée dans le recueil de témoignages des enfants. Exercice extrêmement difficile, une unité spéciale de l'hôpital de Saint-Malo pour éviter à la jeune victime de répéter son témoignage, de le revivre. L'audition est enregistrée, filmée. Derrière un miroir sans teint, une psychologue et un gendarme veillent au bon déroulement de l'audition et guident l'enquêteur à l'oreillette.
Ça, je ne l'ai pas dit à mes parents parce que je ne voulais pas qu'ils le sachent.
Bien sûr, je comprends.
J'ai préféré le garder pour moi.
Je te remercie pour ce que tu viens de me dire, parce que je vois que c'est pas simple.
C'est pas simple du tout. Oui.
Je vois bien.
J'avais une énorme confiance en lui. Et pour moi, j'aurais jamais pensé ça de lui. Quoi.
Bien sûr, je comprends.
Bonsoir Edouard Durand.
Bonsoir.
Ancien juge des enfants, poste que vous avez occupé, fonction que vous avez occupé pendant 17 ans. Vous êtes aujourd'hui coprésident de la CIVISE, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Vous dites que notre société ne prend pas assez au sérieux la parole des enfants. Il faut toujours les croire.
Oui, c'est fondamental. Et dans la journée de formation que nous avons organisée aujourd'hui, tous les intervenants l'ont redit, parce qu'un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas cru risque un effondrement psychique. Parce qu'un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas protégé immédiatement perd confiance dans le monde des adultes. Parce que le risque de surinterpréter des révélations de violences est un risque qui est extrêmement marginal par rapport au risque réel.
Mais qui n'est pas inexistant.
Aucun risque n'est jamais inexistant, mais le risque que nous supportons tous collectivement, c'est de laisser des enfants victimes de viols sans les protéger. C'est ceci qu'il faut changer, voyez-vous. Ce que l'état des savoirs nous montre, c'est que les fausses dénonciations, les fausses allégations de violence sont extrêmement marginales, résiduelles. On a des études qui nous montrent que sur 7672 signalements de maltraitance sur enfants, il y a 2 fausses accusations contre un parent qui n'avait pas la garde. Vous voyez ce genre de réalité. Alors qu'on sait par exemple que dans une classe de 30 élèves, il y a 1, 2, 3 élèves qui sont victimes de viol.
Et qui ne sont pas entendus.
Et qui ne sont pas protégés.
Dans le documentaire et dans l'extrait que l'on vient de voir, on entend beaucoup de félicitations, d'encouragement, c'est bien ce que tu fais, c'est très courageux. On parle en fait à des enfants qui pensent quoi, qu'ils ont tort de parler, que c'est mal.
L'agresseur remplace l'interdit de la violence par l'interdit de la parole. Il dit, si tu parles, tu vas détruire la famille. Il dit, mais tous les éducateurs font comme ça. Ils disent, je vais tuer ton chien, je vais tuer ta mère. Comment voulez-vous que l'enfant sorte du silence s'il n'est pas en présence d'un adulte qui lui ouvre cette porte? Il y a quelques jours, à la Civise, nous avons reçu une médecin pédopsychiatre, Myriam Pierson, avec une magnifique clinique des tout-petits, et qui dit aux enfants, je suis le docteur des soucis. Si tu as des soucis, tu peux m'en parler.
Et justement, il y a aussi une façon de mener ces interrogatoires. On ne parle pas à des enfants comme à des adultes. Le documentaire « Entendre l'indicible » nous montre comment les enquêteurs sont formés.
Alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'il s'est passé quand ce garçon t'a tapé la deuxième fois dans le dos?
Non.
Non. C'est trop direct?
Bah non. Est-ce que tu peux? Non.
Ah oui, est-ce que tu peux? Parle-moi de quand
là,
ce garçon...
Je vous préviens, je cingle à chaque fois. Hein. Est-ce que tu peux? On oublie l'idée.
D'accord.
On ne dit pas « est-ce que tu peux un enfant ?» parce que ça lui laisse en fait le choix de répondre ou pas. On est bien d'accord qu'on respecte l'enfant et qu'on le laisse nous dire à son rythme. Mais il ne faut pas se cacher non plus qu'on est là pour avoir des éléments.
Donc dis-moi ce qu'il s'est passé du début, quand tu te retournes jusqu'à la fin.
Donc il avait les mains comme ça et il a crié plein de gros mots. Et après?
Alors parle-moi de ça.
Non. Et après, elle n'a pas fini là.
Ah oui, je la laisse finir et je reviens après.
Elle n'a pas été jusqu'au bout de ton segment. Donc là, il faut que tu l'invites à y aller. Et après?
D'accord, et après?
Vous publiez aujourd'hui un cahier, un livret de formation pour les professionnels pour mieux repérer ces violences et ensuite mieux les signaler. Aujourd'hui, une énorme part des plaintes déposées pour violences faites aux enfants sont classées sans suite. Le problème, c'est que les adultes, la société ne savent pas traiter de cette question.
Oui, il y a une invisibilité des enfants victimes à tous les stades de la chaîne de la protection. C'est pourquoi nous insistons sur l'amorce de la chaîne de la protection qui est le repérage, le signalement. Je viens de le dire, allez chercher la parole. On ne sait pas quel est l'enfant qui est victime dans une classe, dans une maison d'enfants. Si on pose la question à tous les enfants, on permet aux enfants de répondre. Moi, quand j'étais au tribunal à Bobigny ou à Marseille, que j'avais les enfants devant moi, mais vous pouvez prendre l'exemple des enfants délinquants, par exemple, que j'avais devant moi parce qu'ils avaient commis des violences, je devais aussi être en situation de repérage des violences qu'ils subissent. Et je posais la question, est-ce que quelqu'un vous a déjà fait du mal? Et si vous avez un petit garçon, une petite fille qui vous dit, hier, oui, Jonathan, il m'a tiré les cheveux, il m'a pris mon ballon, vous êtes rassuré. Cet enfant victime, peut-être qu'il ne vous parlera pas, il sait qu'il peut vous faire confiance. Et ça, c'est fondamental. Je voudrais dire une petite chose très rapide.
Oui.
Je recommande à vos téléspectateurs de regarder le documentaire
Entendre
de
l'indicible. Rouge.
C'est un très haut niveau de spécialisation et c'est remarquable.
C'est à 23h05 sur France 2. Merci beaucoup d'être venu ce soir nous en parler Édouard Durand. Vraiment, il reste quelques secondes, Raphaël.
Oui, il y a l'interdit de la parole et puis il y a la parole qu'on n'entend pas une fois qu'elle est prononcée. Et c'est là que la littérature arrive. Camille Kouchner a écrit un livre sur une parole qui avait été prononcée et qui n'avait pas été entendue après avoir été dite. Chloé Lambert, Nous en resterons là, aux éditions du Rocher, c'est la même chose. Ce sont des romans, c'est-à-dire c'est le moment où les écrivains s'en emparent. C'est quand les choses sont dites et qu'on continue de ne pas vouloir les entendre.
Entendre l'indicible, c'est demain à 23h05 sur France 2. Merci Édouard Durand. Merci beaucoup Fanny De Coster. Merci Raphaël Antoven. Franc-tireur, c'est demain en kiosque, le hors-série et l'hebdomadaire. Dans un instant, nos invités du dîner, Lara Fabian et Alice Diop, Saint-Omer, c'est son premier long-métrage qui sort demain mercredi au cinéma. A tout de suite, on vous attend. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique c'est à vous. Et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.